donner la cohérence entre nos différents espaces publics. Cette question-là va être au cœur du travail que l'équipe ici présente va vous présenter, puisque il s'est agi dans cette opération, donc, que vous voyez sur la carte ici, donc, qui est vraiment le centre géographique de la partie euro-atlantique sur la rive gauche, donc à l'arrière de la gare. La question a été, sur ce quartier-là, de créer une centralité, de marquer la centralité physiquement d'Euratlantique. Pour la marquer, une demande de réflexion a été particulièrement demandée au groupement, à la fois sur la question de l'identité, à quoi va ressembler ce site, comment ce site, ce quartier, va être un quartier de Bordelais du XXIe siècle, et donc finalement, quelle architecture, quelle image il va donner. Sur ces questions-là, on a eu une recherche sur finalement qu'est-ce qui faisait lien dans l'architecture bordelaise à travers les âges, qu'est-ce qui donnait sa cohérence, et on a demandé à l'équipe de travailler particulièrement sur les 6 axes suivants. Ce sont les axes d'ailleurs que l'on demande à travailler à toutes les équipes, quels que soient les quartiers de l'Atlantique. Donc les axes, pour mémoire, c'est la question de la matérialité, comment on retrouve une ville pesante, une ville de pierre, une ville avec des matériaux durs, du béton, de la brique, comment on retrouve un quartier qui a une couleur bordelaise, une ville blonde, dans ses différentes tonalités, dans ses différentes gammes, comment les gabarits des immeubles, leurs ouvertures, leurs fenêtres, leur légèreté, leurs détails se glissent dans cette histoire un petit peu intemporelle de Bordeaux, que ce soit de l'Antiquité jusqu'aux années 60, et comment, surtout, cet ensemble repose sur un socle vivant, sur des rez-de-chaussée commerciaux ouverts à la ville qui offrent des services en interface avec l'espace public pour que ce soit un quartier vivant. L'objectif vraiment ultime, c'est que cet espace public, ces espaces bâtis demain, soient des espaces vivants qui fonctionnent, qui soient desservis et qui apportent un plus à leurs habitants. Donc l'enjeu qui a été donné sur ce quartier, c'est voilà, comment on donne cette centralité à travers ces différents items, l'espace public, les usages de rez-de-chaussée, l'identité. Cette place qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est aussi la place sur laquelle va venir se greffer les deux totems de la construction bois bordelaise, les deux immeubles, les deux plots de hauteur moyenne de l'Atlantique, puisque la place a été conçue aussi pour créer des rapports d'échelle entre ces immeubles et ces bâtiments, avec toujours des largeurs d'espace public beaucoup plus grandes que la hauteur des bâtiments. Et donc, avant de laisser la parole au groupement, qui a travaillé, d'ailleurs, il faut le préciser, dans une méthodologie assez nouvelle, dans une forme de dialogue compétitif, où les différents maîtres d'œuvre qui étaient invités, et d'ailleurs, vous en avez deux ici, vous avez deux architectes, il y a eu un premier et un second, malgré tout, mais l'apport des deux architectes ayant été tellement intéressant que finalement, on a continué à travailler avec les deux. Et ensuite, ils se sont répartis, partagé le travail, parce que c'était intéressant, chacun ayant apporté des briques, des interrogations qui ont permis constamment de redéfinir le programme, de redéfinir les ambitions et de se dire, ben, on peut faire encore mieux, et on peut faire encore mieux, et on peut faire encore mieux si on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, les grands fils conducteurs qui ont mené ce travail et qui vont vous être présentés ont été les suivants. C'est conserver et utiliser le déjà-là. En fait, le déjà-là, et c'est un peu surprenant, vous allez voir quelques photos, il n'y a pas grand-chose quand on va sur le site. Il faut avoir une certaine vision pour pouvoir se projeter. Mais comment on fait ? Comment on fait avec ce qui est déjà là, et en particulier le centre de tri ? Comment on crée une centralité dans un endroit où il n'y a rien ? Comment on fait pour animer cette centralité ? Comment on fait pour amener des commerces dans une centralité où il n'y a rien ? Comment on imagine un espace public qui soit identifiable ? Quand on parle d'un espace public en ville, d'une place, la place du théâtre, la place Gambetta, la place de la Porte Caillot, on a tout de suite des repères mentaux. Comment demain on va trouver ces repères mentaux dans le projet ? Comment ce projet, cet espace public, ces immeubles qui vont être autour vont être repérables et le tout dans une logique d'identité bordelaise ? Comment on sait qu'on sera à Bordeaux et non pas dans les faubourgs de Marseille, Toulouse ou n'importe où ailleurs en Europe ? Et comment ce projet d'ensemble apporte une mixité d'usage et programmatique qui répondent aux besoins des habitants et des futurs usagers de ce quartier. C'est l'ensemble de ces points-là qui vont vous être présentés.
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Alexandre. Pour notre groupement, donc BNP Paribas Immobilier, ECDM et COBE, c'est aujourd'hui un an et demi à deux ans de travail. Un grand plaisir et confiance que la ville de Bordeaux et le PE Euratlantique a voulu nous confier cette tâche. Ça a été un concours avec plusieurs architectes. On a retenu le cabinet Emmanuel Combarel, Dominique Marek en tant qu'architecte urbanisme de l'ensemble de ce groupement. Et le cabinet Kobe, représenté par Alexandre Jonvel, avait fait une deuxième réponse. Il faut toujours choisir un lauréat. Une deuxième réponse de très grande qualité qui reprenait finalement les objectifs donnés par le PER Atlantique. Ce qui a été passionnant comme travail, et vous allez le découvrir au fur et à mesure, c'est qu'on part en effet d'une ancienne friche ferroviaire avec un passé industriel, un bâtiment du Tripostal des années 70, pas beaucoup de références autour de nous. Et la véritable interrogation, c'est comment on fait un quartier nouveau ? Qu'est-ce qu'un quartier neuf ? Qu'est-ce qu'on offre aux habitants ? Dans quelle temporalité ? Et sans oublier les codes qui existent déjà à Bordeaux. Voilà. Donc on a travaillé sur cette... peut-être passer à la slide suivante. Sur cet objectif-là. Et le meilleur moyen de vous le présenter, finalement, c'est de vous présenter cette photo. Cette photo qui représente exactement la problématique que nous avions. Le centre de tri postal d'Armagnac à conserver, qui était une donnée clé de cet appel d'offres et de ce concours, et peu d'espace public, en tout cas d'espace public comme on attend d'un espace public, c'est-à-dire un véritable lieu de vie, et peu de références autour, puisque ce centre de tri postal est posé au milieu de friches ferroviaires. Donc là, voilà, vous avez une photo du bâtiment pour mieux comprendre l'enjeu de ce concours et de ce quartier, avec un bâtiment qui fait environ 25 mètres de large et plus de 150 mètres de long. Donc on est à une échelle urbaine extrêmement importante, plus grande que la place Gambetta. Et l'objectif était de recréer autour à la fois une centralité sur le quartier Armagnac, une place active avec beaucoup d'usages, des habitants, des bureaux, des commerces, de l'activité. Je vais passer la parole à Emmanuel Combarelli. Il va vous expliquer beaucoup plus en détail, bien mieux que moi, le travail urbain qu'il a réalisé sur ce concours.
Oui, c'était important de rappeler la méthodologie. C'est vrai qu'on a commencé à travailler sur un dialogue compétitif. Durant 4 mois, on s'est construit des convictions collectives autour de valeurs partagées. Et en fait, ces valeurs, c'est comment faire la ville du 21e siècle, comment faire un nouveau quartier bordelais. Alors, la première réflexion, ça a été effectivement de garder le tri postal. D'abord parce que c'est une difficulté et qu'à force de tout simplifier, on fait des villes extrêmement uniformes. Donc, l'idée, c'était de trouver déjà une contrainte très forte sur le site qui nous oblige à proposer des solutions innovantes. Et c'est d'autant plus complexe qu'on est dans un territoire qui est issu d'infrastructures. Donc, on pense bien sûr aux ferroviaires, mais à tout l'industriel qui a constitué ce territoire, et comment passer de cet industriel sans complètement l'oublier à un quartier plus résidentiel. Et là, le tri postal, sa longueur, sa structure, fait qu'il coupe le territoire. Donc la première interrogation, c'est comment garder cet objet et comment trouver des porosités dans le territoire, comment créer des déplacements doux. Et notamment, il y a un grand parc paysager qui doit le traverser. Donc là, il y avait déjà une première réflexion qui induisait un espace public majeur et une polarité, une centralité. Autour de ça, on va créer un quartier complexe aussi, parce que la ville doit être faite de diversité. Si on veut que la ville vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut que pendant la journée, il y ait des activités économiques. En soirée, le week-end, il y a du résidentiel et on est obligé de trouver des solutions pour que ces différents programmes puissent vivre ensemble. Donc là, c'est la ville contemporaine, c'est comment on crée de l'emploi, comment on crée du résidentiel, comment on crée un endroit où on peut trouver des services et du commerce en un même lieu et que tout ça cohabite d'une façon raisonnée. Donc autour de ça, on a commencé à construire de façon un peu stratégique, en se disant qu'il y avait peut-être dans ce vaste territoire des implantations préférentielles pour certains types de programmes. Et on a commencé à organiser notre aménagement avec des micropolarités à l'intérieur du plan masse. L'idée étant que finalement, en créant de la diversité, on allait créer des synergies. Et donc on allait faire peut-être des bâtis plus performants, avec des échanges plus performants à l'intérieur donc, de ces îlots. Je ne sais pas si tu veux.
Ouais, je veux bien dire un mot, puisque quand tu m'as demandé d'intervenir à tes côtés, Emmanuel, je t'ai dit que pour moi, ce qui était important, c'était ce projet-là pour faire un morceau de la ville de Bordeaux. C'est aussi de réfléchir à la qualité des espaces publics Et moi, j'ai toujours été impressionné par cette représentation de Giambattista Noli, donc qui est un cartographe italien qui avait représenté la ville de Rome en représentant l'espace public, mais en ne représentant pas que l'espace public. Et c'est ça qui est intéressant sur ce document, c'est que l'on voit en fait l'espace public et la porosité à l'intérieur même des îlots, à l'intérieur des bâtiments. Et je pense que si on veut réussir un quartier vivant, un quartier attractif, et c'est le travail que l'on fait ensemble, c'est de réussir à faire en sorte que les pieds de bâtiment, on ait une porosité, qu'on ne soit pas que dans un rapport espace privé, espace public, qu'il puisse y avoir une infractuosité, un lieu où la vie du quotidien va s'installer. Et ce qui est important dans ce projet, qui a été, et notamment dans la fabrication du projet avec l'aménageur, est venue l'idée à un moment donné de fabriquer un espace public majeur, donc la place d'Armagnac, qui est donc un élément qui ensuite va permettre de distribuer l'ensemble de la mobilité sur ce secteur de la ville.
Ouais, donc cette place, elle est grande à peu près comme un terrain de foot. Elle est traversée par ce qu'on appelle le VIP, qui est un grand bail piéton. Et au milieu, on a gardé la tête du tripostal, donc qu'on a isolé. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de porosité. Et on a commencé à voir comment on pouvait fragmenter ce bâtiment. Donc, on voulait en garder le maximum de son existant comme un capital. Et en même temps, créer des porosités parce que le bâtiment est un peu plus haut. Il est un mètre au-dessus du niveau du sol. Il est complexe à traverser. Et donc, on l'a fragmenté. Et on a imaginé cette place avec un objet au milieu. Donc on va constituer la ville à la fois, je dirais, du banal, c'est des éléments extrêmement, sur un même vocabulaire, extrêmement semblables, avec une identité commune, et puis un élément singulier sur la place qui a un rôle de porter les ambitions d'une centralité, de donner une lisibilité à cette polarité de la ville. Donc voilà, là on est sur la place, on a donc stratifié aussi donc, ces éléments, c'est-à-dire qu'il y a une hauteur de la ville qu'on a déduit de l'environnement et au-dessus duquel on allait porter des objets un peu plus libres. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se déplace dans la ville, la perception de la ville varie énormément, enfin on n'est pas toujours la tête levée, et donc il y a une perception première qui est ces 5 premiers mètres. Après, donc, on a travaillé sur le corps du bâtiment et en fait sur sa terminaison. Donc là, on s'est autorisé à surajouter sur le tripostal un bâtiment qui sera donc un hôtel, au-dessus duquel il y aura un restaurant noyé dans un jardin suspendu.
Et en fait, ce qui était intéressant pour nous, puisque l'agence ECDM donc, est architecte, coordinatrice de cet ensemble immobilier, c'était de se poser la question de la mitoyenneté. Parce que souvent, maintenant, dans les projets urbains, on crée des objets architecturaux un peu isolés, indépendants, avec une collection d'architecture. Et là, toute la question, c'était au contraire de pouvoir instaurer un dialogue, une mitoyenneté, un adossement des bâtiments les uns les autres. Donc nous, on vient réaliser une partie du programme de logement qui, en fait, s'adosse à une partie du programme de bureau conçu par l'agence ECDM. Et ce qui est intéressant, c'est que l'agence ECDM nous a donné des codes dans lesquels il fallait qu'on puisse inscrire notre architecture de manière à ce qu'il y ait une réelle identité à l'ensemble du projet. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'en fait, l'identité de Bordeaux, elle est très codifiée. Mais malgré tout, chaque façade est différente. Et finalement, c'est le détail qui va créer la qualité de cette architecture.
Oui, en fait... Bon, cette image est très belle. Elle évoque beaucoup de choses. Elle évoque évidemment la masse, la densité, la minéralité, et en même temps, quel magnifique paysage urbain. Donc là, c'est riche d'enseignements. Et finalement, on s'est mis un peu en rupture par rapport à la production de la ville actuelle, où on constitue des objets isolés. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait créer de la mitoyenneté, de la proximité, et que les bâtiments pouvaient être accolés, et qu'on pouvait créer une densité qui soit bien vécue, et comment on peut bien vivre cette densité. C'était la première réflexion. La deuxième, c'était de se dire, finalement, ce qu'on va faire, c'est un quartier bordelais, on est dans l'hypercentre, et il faut qu'on adhère à cette histoire collective qui est la ville de Bordeaux. Donc, on a essayé d'extrapoler des signes, des singularités de Bordeaux. Donc, bon, ça a été tout un travail assez complexe, mais Bordeaux, c'est minéral, c'est une pierre blonde, c'est des toitures, C'est donc c'est de la ferronnerie, il y a un ensemble de caractéristiques qu'on a essayé d'identifier et on s'est demandé comment on pouvait réinterpréter dans un registre contemporain ces qualités en se disant que finalement, peut-être que, à contrario des actes actuels, on va faire des objets architecturaux. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on habite autant son logement que son quartier. Et donc, l'idée de constituer un quartier qui a une vraie identité collective nous semblait aussi important que créer des très beaux logements.
Oui. En fait, ce que l'on a retiré aussi en analysant, puisque les deux agences ont eu un peu cette même approche qui était d'analyser finalement la composition des façades classiques du XVIIIe siècle à Bordeaux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme travail sur la lecture des doubles niveaux ou de la composition des façades. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on a vraiment une logique de décomposition, de stratification. Donc là, on voit la partie, on va dire, socle, qui correspond en partie basse à toute la partie animation de l'espace public avec donc des commerces qui viennent vraiment agrémenter la place. Et au-dessus, une partie donc très normée, très, très harmonieuse dans le dessin de cette grille. Et ensuite, une liberté donnée au-dessus du R+4. Là, ce que l'on voit, donc, c'est une partie de logement. Et ce que l'on voit, c'est les... Je parlais tout à l'heure des détails qui vont varier. Ce que l'on voit, par exemple, c'est l'immeuble à gauche et l'immeuble à droite n'ont pas tout à fait les mêmes garde-corps. En fait, Emmanuel nous a demandé à nous de nous inscrire dans un certain vocabulaire et de trouver une manière pour nous de nous réapproprier le garde-corps, la fenêtre, le volet et le fond de loggia, les matériaux aussi sous les balcons, et que ce soit finalement la variation de ces éléments-là qui crée l'identité de ce bâtiment au sein d'une identité qui nous est commune.
C'est vrai que quand on regarde Bordeaux, des choses magnifiques que sont la répétition, le rythme, l'ordonnancement, c'est des très très belles valeurs qui me stupéfient quand je viens à Bordeaux, qui est une ville absolument merveilleuse pour son architecture classique. Et cette idée de le retravailler avec beaucoup de liberté dans un registre contemporain était donc une idée qui nous a intéressé et auquel sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et donc, l'image qu'on vous a présentée, je pense que c'est à la fois ses valeurs et en même temps, c'est une mise à distance. Donc, on n'est pas dans un pastiche. On a voulu essayer de comprendre comment on pouvait trouver une filiation. Et en fait... créer un quartier bordelais, une entité bordelaise. Donc là, c'est l'habitat.
C'est l'habitat, donc ça, c'est un petit clin d'œil. Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock, pour nous, c'était de dire que la densité a aussi une valeur positive. Et ce qui est intéressant, c'est un petit clin d'œil, c'est-à-dire le rapport de vis-à-vis, le rapport de la vie résidentielle. C'est aussi quelque chose sur lequel on va avoir une attention dans le projet, c'est-à-dire que comment accepter cette densité? C'est un projet qui est un peu compact, qui est un peu dense. Mais justement, c'est une valeur qui on pense être positive, dans le sens où ce jeu d'interaction d'un logement à un autre, d'une fenêtre à un autre, la vie va s'installer. Et je dirais la vie de cet ensemble immobilier va pouvoir se développer.
Voilà, peut-être qu'on va passer sur les images successives. Là, donc, travaille sur aussi la couleur, la matérialité. Donc évidemment, ça ne sera pas de la pierre, mais ce qui nous intéresse, c'est cette texture de la ville, comment la retravailler. Bon, ça sera sans doute en béton. Donc on voit du béton comme de la pierre liquide. Donc quelque chose de plastique qu'on va pouvoir mouler. Et donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, enfin ce qu'on propose sur la slide suivante. Voilà, donc un registre sur les balcons. Donc sur l'écriture de B, reprise de volets extérieurs, un travail sous les sous-faces, parce que donc des grands balcons, mais la ville est perçue en contre-plongée, donc là encore une vision cinématographique. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une façade horizontale qu'on perçoive, donc ces sous-faces, et puis une réinterprétation assez baroque sur la ferronnerie, avec un procédé technique extrêmement contemporain, puisqu'on va faire ça en découpe laser. Donc, c'est des tôles qui sont découpées au laser.
Donc là, nous, dans le bâtiment qui est à droite, donc celui qui est à gauche est donc conçu par, par Emmanuel, celui qui est à droite est conçu par nous. Donc nous, on a apporté en plus de ce garde-corps donc, la présence du végétal sur l'ensemble des balcons, donc en créant des jardinières qui donc, vont être conçues pour vraiment pouvoir cultiver une partie de ces jardinières et que ce soit vraiment un élément important de la qualité de cet espace qui pour nous est une vraie pièce en plus. Les balcons sont généreux, on a donc pour l'ensemble de ces balcons, en tout cas pour notre opération, donc prévu cet élément qui permet d'installer des plantations avec au moins 50-60 cm de terre et sans doute aussi la présence d'un arrosage pour que ces plantes puissent se développer.
Donc, tout à l'heure, j'évoquais le pied de la ville. Donc, ça, c'est le rapport à l'espace public. Donc, nous, on a une philosophie à l'agence. On ne fait jamais de logement à rez-de-chaussée, sauf quand le promoteur nous met un pistolet sur la tempe. Donc là, les pieds d'immeubles, c'est sur des espaces de services, de commerce. Ce qu'on veut, c'est avoir des locaux collectifs éclairés et ventilés naturellement. Donc, ça, c'est des locaux pour les cycles, locaux poussettes, locaux ordures. Tout ça éclairé et ventilé naturellement. Il faut, et d'autre part, des commerces, du service pour avoir des pieds d'immeubles attractifs et animés tout au long de la journée. Donc, en l'occurrence, il n'y aura pas de logement à rez-de-chaussée. Donc, on aura vraiment des services ouverts sur la ville. Là, ce qu'on voit, c'est donc on est sur le VIP en haut. En bas, on est sur la place d'Armagnac avec un hôtel en fond de perspective. L'hôtel va être assez intéressant puisqu'il va être en partie refait dans la tête du tripostal. Et donc là, il y a toute une figure sur le travail de topographie puisqu'on n'est pas exactement au même plan que celui de la ville. Et un travail qui nous intéresse, c'est comment rendre la ville accessible à tous et que ça ne se voit pas, que ça soit donc extrêmement discret.
Oui, c'était totalement un des enjeux de ce quartier et qu'on partage et qu'on travaille beaucoup avec le PER Atlantique. La question des espaces publics, la question de l'animation des pieds d'immeubles, de la qualité des pieds d'immeubles. Cette opération, c'est 465 logements, 10 000 m² de bureaux. Une opération qui va comporter également un hôtel, un centre des congrès. Donc on avait deux enjeux qui vont être les défis de demain, puisqu'on dépose le premier permis de cette opération d'ici la fin d'année. La question de la temporalité d'abord. Quand on crée de l'espace public auprès de l'aménageur, il faut que cet espace public puisse être terminé dans les temps et qu'il englobe l'ensemble des programmes. Donc l'objectif est de réaliser dans une première phase, phase bis, dans un délai de 6 mois de décalage, ainsi qu'avec l'opération d'effage sur la tourbois, des délais de livraison qui vont être compatibles, qui vont être similaires, de telle manière à ce que l'espace public soit réalisé en une seule fois. Et que pour les futurs habitants et les habitants actuels des terrasses de l'Armagnac, la place d'Armagnac prenne tout son sens. L'autre élément qui était important et qui a été un des choix aussi de l'aménageur, ça a été de désigner un investisseur commerce unique qui va pouvoir du coup travailler sur l'ensemble des pieds immeubles, faire un vrai plan de merchandising de telle manière à amener des commerces de proximité. Quand on fait un quartier qui va comporter à terme plus de 500 logements autour de cette place-là, la question des commerces de proximité, la question des socles actifs, des rez-de-chaussée actifs est primordiale, ainsi que la temporalité. L'objectif est de pouvoir offrir au moment de la livraison la place avec les espaces publics constitués, mais également l'ensemble des commerces permettant d'offrir le service.
Voilà, c'est peut-être ça la conclusion. Donc là vous avez... On a fait une maquette 3D, donc là on peut s'immerger. Donc je vous invite à aller sur le stand qui est à côté, où vous pouvez rentrer donc dans une représentation assez simple de la ville, mais très dynamique, et on se rend très très bien compte de la spatialité. Encore une fois, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une ville dense et en même temps une ville attractive. Et je pense que Bordeaux est un très bel exemple de densité bien vécue.
Voilà, bah écoutez, qui a des questions ? Ah.
Pas de question ? Oui, moi, je voudrais juste savoir si votre projet, c'était uniquement l'immeuble de réhabilitation du Tripostal avec l'hôtel et le bel immeuble là, que vous avez présenté où vous êtes conjointement architecte, ou s'il y en a d'autres. Parce que sur votre plan masse, il semblait y avoir beaucoup de bâtiments. Et puis là, on n'a vu que deux. Donc, je voulais savoir en quoi... Ah oh bon, vous avez compris. Oui.
En fait, il y a deux échelles dans le projet. Il y a une échelle de réflexion qui est l'échelle du quartier, qui a permis de définir les pleins, les vides. Et principalement, cette notion de centralité, cette notion de place. Donc, comment on crée une place? Si on crée une place, on crée des façades. Si cette place est grande, et elle est grande, puisqu'elle est à peu près de la taille de la place Gambetta, il y a beaucoup d'immeubles. Parmi ces immeubles, un certain nombre seront réalisés par le groupement, la tête du centre de tri, l'immeuble qui vous a été présenté. Dans une phase ultérieure, il y aura également le reste du centre de tri qui va accueillir un palais des congrès un petit peu à l'image du bâtiment dans lequel on est. Et il y aura d'autres immeubles qui ne seront pas réalisés par le groupement. Mais on a bien deux échelles de réflexion et d'études. Celle de l'échelle urbaine, celle du quartier. Quels sont les ingrédients à mettre en œuvre pour que le quartier fonctionne, pour que les commerces viennent, pour qu'il y ait de l'animation et cette recherche de mixité. Et ensuite, l'échelle plus architecturale, l'échelle du bâtiment, dont la présentation vous en a ciblé un, pour donner un petit peu la grammaire qui va être appliquée à l'ensemble de ces immeubles, puisque la question, c'est comment, à l'intérieur d'un quartier, on crée une identité, une cohérence, et donc il faut avoir, il faut donner là, et c'est le bâtiment qui vous a été présenté.
En fait, ce qu'on a vu, c'est cet îlot-là et cet élément-là. Donc après, tout le reste sera étudié. Mais ce qu'on veut, c'est trouver une unité dans les écritures architecturales. Donc ça sera variation sur un même thème. Non, mais ça sera, c'est une écriture partagée. D'ailleurs, ce n'est pas exactement la mienne. Hein, c'est une architecture qu'on a écrite ensemble avec un groupement de réflexion. Donc c'est une écriture collective qu'on a portée, mais c'est des valeurs qu'on a partagées.
En fait, ce qui... Tout à fait. L'idée, c'est d'apporter une cohérence à l'ensemble du quartier, une grammaire, un vocabulaire. Ce n'est pas pour ça que ça doit être parlé avec, par la même personne, par le cabinet ECDM ou Kobe. Et nous, par contre, en tant qu'aménageurs, on gardera les éléments de suivi du projet dans son ensemble pour que ce vocabulaire, cette grammaire, soit déclinée sur les autres immeubles du quartier. Oui. Par qui ils seront réalisés, on verra en temps voulu. Mais en tout cas, on gardera cette cohérence par ce vocabulaire.
L'objectif que nous avions était de désigner avec le PA un architecte urbaniste coordonnateur qui fixait un certain nombre de règles. Le principe était d'avoir un quartier avec une certaine unité, que ce soit dans la colorimétrie, que ce soit également dans les rythmes, ce qui n'empêche pas une variété architecturale dedans. Quand on a sollicité Kobe pour venir intervenir sur ce dossier-là, il est rentré finalement dans un cadre qui fixait un certain nombre de règles, mais avec aussi un certain nombre de libertés. Mais c'est vraiment l'interrogation qu'on a sur ce quartier. On veut faire un quartier qui fasse quartier et lui donner du coup une certaine cohérence. Aujourd'hui, quand on se balade dans le vieux Bordeaux sur les quais, il y a une cohérence et pourtant une grande diversité également. Une diversité dans les socles, une diversité dans les portes. Je vois M. Colombani qui est ici, qui a beaucoup travaillé sur la question des portes à Bordeaux, à travers des aquarelles qui sont magnifiques. Il y a des portes différentes, il y a donc des rez-de-chaussée différents, des colorimétries légèrement différentes. On est une ville blonde, mais le blond va du gris au blanc en passant par le blond. Donc c'est ces variétés-là et des rythmes différents de façade.
Il y a un point qu'on n'a pas abordé, il me semble, c'est la question de la place de la voiture dans cette opération. Parce que ça, c'était aussi quelque chose de très ambitieux. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de redonner vraiment une grande place à l'espace piéton, aux mobilités douces, puisque en fait, au sein des trois îlots que vous voyez ici, en fait, il n'y a pas de voiture. Toutes les voitures sont... le stationnement privatif se fait au cœur des bâtiments, et finalement, tous les espaces que l'on voit entre les bâtiments sont entièrement dédiés aux habitants. J'irais aussi aux habitants des quartiers autour, parce que finalement cet îlot-là, s'il est poreux, s'il se divise, c'est bien pour pouvoir passer depuis l'espace qui est ici indiqué comme le quai d'Armagnac, vers la place d'Armagnac, vers la Garonne. C'est bien l'idée de faire un urbanisme poreux et de laisser passer à l'intérieur les mobilités douces. Donc la voiture, elle est finalement, on va dire, rejetée à l'extérieur. Ça suffit. Je pense qu'il y a juste besoin de créer ces connexions pour pouvoir rentrer dans son parking. Mais c'est vraiment un espace extrêmement généreux, je pense, pour le piéton et notamment pour la place d'Armagnac.
Oui, d'ailleurs, une figure assez singulière, c'est finalement la place, c'est une spatialité, et elle sera traversée à la fois par le tram et par l'automobile. Et ce qui est assez intéressant, c'est finalement, le rapport à la rue a complètement changé, puisque c'est au milieu d'une grande spatialité que vont devoir passer les voitures. Donc là, il y aura une définition assez stricte et la plus discrète possible du flux, et le reste sera complètement ouvert. Donc, inversion en fait de la ville qui était construite autour des rues. Là, la rue, elle devient élément de liaison piéton, circulation douce. Et la place, donc, redéfinit une spatialité ouverte dans laquelle pourront traverser les voitures.
Puisqu'on est dans le travail sur l'espace et puisqu'on est dans le travail sur l'espace, il me semble que le thème d'Agora cette année, c'est le paysage et quid de la végétation. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Qu'est-ce que vous avez prévu?
Alors, bon, d'abord, le paysage, c'est beaucoup de choses. Alors, le paysage, c'est urbain. Ça peut être urbain. Le paysage peut être minéral, aussi bien un paysage naturel qu'un paysage urbain. Moi, je suis toujours époustouflé par la qualité des places méditerranéennes qui sont extrêmement minérales. Quand je vais à Padoue, il y a une place merveilleuse, il n'y a pas un arbre, et c'est absolument fantastique, elle vit très très bien. Pour le coup, l'idée, c'est pas de ne pas planter. Mais l'idée, c'est pas de se dire qu'en plantant, ça ira mieux. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pas une solution en soi. Donc, il y aura des arbres, et ce qu'on veut, c'est mettre de la végétation assez disséminée un peu partout, donc à la fois au niveau du sol, sur les toitures, bien sûr, mais aussi sur les balcons. Et les balcons, chaque balcon, on a demandé qu'il fasse au moins 2 mètres de profondeur. Donc, c'est peut-être un mini-jardin avec aussi un point d'eau, un potentiel pour que les gens puissent l'utiliser et donc faire en sorte qu'ils plantent leur terrasse. Je vais essayer de... juste pour dire que moi, je suis toujours très, très ébahi. Quand je vois une copropriété où c'est planté à tous les niveaux, je me dis que c'est une copropriété qui vit bien. Et je pense que notre travail, c'est de mettre les ferments de cette sociabilité pour que ça vive bien.
Pour revenir à la question des espaces publics plantés, non plantés, on a présenté dans l'heure précédente le jardin d'Armagnac, le jardin de l'Ars qui va arriver juste ici, hein, à l'angle de la place d'Armagnac. Il va s'ouvrir sur cette place. Et donc le parti pris a été à la fois de renforcer le caractère extrêmement végétal du jardin et sur la place d'Armagnac de créer une place latine, donc une place dont le revêtement, pour qu'il soit accessible, fonctionnant avec des commerces, soit un revêtement minéral, mais par contre planté de grands arbres de façon à avoir un effet parasol qui amortisse les effets de chaleur, en particulier l'été. Donc on aura un sentiment de place un petit peu comme quand vous êtes sur les contre-allées de la place des Quinconces, où on a un revêtement au sol qui sera certainement plus dur, on sera sur des matériaux plus durs, mais par contre des grands arbres parasols qui viendront abriter les terrasses, abriter les pieds d'immeubles, tout en les donnant à voir et être dans un système de ville. Donc vraiment une recherche d'une logique d'une place du sud, d'une place latine. La simulation numérique là, qui est à l'arrière donne bien à voir ça. Moi, je vous invite à aller vous promener sur cette place grâce à la machine, où on va voir effectivement ce sentiment de revêtement et ce sentiment de plantation d'arbres de grande hauteur.
Ce qu'on proposait au niveau du concours, puisqu'il s'agit de végétalisation, nous, on préfère un vrai arbre, un grand arbre, que 5 plumeaux plantés. Donc c'est vrai qu'il y a une banalisation de la végétalisation en ville. Il faut retrouver des arbres qui ont une vraie ampleur. C'est tellement beau d'avoir un vrai platane, quand je pense à la place des Quinconces, ce qui est merveilleux, c'est l'ampleur des sujets vivants. Et donc là aussi, il faut caractériser notre espace planté.
Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Bonsoir. Votre précédent schéma fait apparaître... Oh, il y a fait Larsen. Je vais me déplacer, voilà. Votre précédent schéma, il fait apparaître, en matière de couleurs, des logements dédiés ou dénommés participatifs. Vous pouvez expliquer à quoi ça correspond ?
C'est pour moi, ça ?
Voilà. Voilà, celle-ci.
Oui, oui, tout à fait. Donc, donc, sur cette opération, vous avez environ 465 logements, des logements en accession, des logements sociaux qui sont réalisés pour le compte du bailleur social Aquitanis, et également un projet de logements en accession sociale et participatif qui sont portés par le COL, qui interviennent en deuxième phase. L'objectif étant, sur une part du bâtiment vert que vous voyez en bas, de proposer aux futurs habitants la possibilité de créer ensemble leur lieu d'habitation en se mettant en collectivité. C'est le principe des logements participatifs. On parle en général, ce sont des opérations de 20 à 30 logements au maximum, où le COL va du coup rassembler, avant même de dessiner les logements, les futurs habitants et les accompagner pendant une durée qui sera arrêtée dans la création de leur immeuble. Ça va dans le choix des parties communes, dans le choix des couleurs, des revêtements des parties communes. Ça va dans la composition des salles communes. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir une salle pour se rencontrer, une salle de partage ? Ça va également dans le dessin même de leurs propres appartements. Voilà. Donc sur cette opération, sur une vingtaine, une trentaine de logements, il y aura cette nouvelle façon de concevoir le logement et qui sera donc réalisée par l'école qui accompagnera ses futurs acquéreurs.
C'est bon. J'ai juste un problème pour me repositionner. Le bâtiment de l'agence Kobe, j'ai du mal là, à le positionner. Ah, d'accord. Ok. Alors, merci.
Bonjour. Alors, je prends un peu la conférence en cours, mais hier, monsieur nous a fait une très belle présentation du projet Atlantique. Bon, je suis photographe et depuis quelques années, je travaille sur l'évolution de Bordeaux. Alors, c'est vrai que Bordeaux est une ville très minérale du fait de son histoire. Et dans beaucoup de projets, on voit l'utilisation du métal comme revêtement. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut donner de très très belles choses entre l'ancien et le nouveau point de vue architectural, comment dire, dans un code d'évolution. Mais est-ce que comment envisagez-vous le vieillissement de ces matériaux sur 20, 30, 40 ans ?
Alors, sur cette opération, on n'a pas de revêtement métallique. On est sur une opération qui veut reprendre le code de la pierre avec sa durabilité dans le temps. Donc on est plus sur de la matérialité en béton, probablement d'ailleurs en béton préfabriqué, pour de telle manière avoir une finition la meilleure possible sur l'ensemble donc, du premier socle. La seule présence métallique est dans les garde-corps avec un travail en effet de découpe au laser permettant d'avoir un garde-corps qui va vivre un peu, qui va proposer un dessin à la fois aux acquéreurs, mais à la fois aux piétons, quand ils vont se balader dans ce quartier-là. Avec toujours la question du garde-corps, il faut préserver l'intimité, laisser avoir aussi, mais ne pas laisser aussi voir ce qui se passe sur le balcon. Voilà, donc il y a tout un exercice qui est fait de travail, avec une réflexion sur le garde-corps de jour, mais également le garde-corps de nuit. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui sur ce quartier une réflexion sur l'éclairage de nuit. Que donne le quartier de nuit ? Comment va-t-il être éclairé ? Surtout un quartier qui est extrêmement piéton, donc il faut éviter le sentiment qu'il pourrait y avoir d'insécurité. Donc il y a un vrai travail sur l'espace public, sur l'éclairage, mais également sur les façades. Voilà. Donc on s'est interrogé avec Dominique Marek sur la question de comment on éclairait un balcon. Est-ce qu'il faut éclairer un balcon par en haut ? Au contraire, est-ce qu'il faut éclairer un balcon en bas pour refléter la lumière et éclairer la surface ? Et c'est le travail aussi que, Alexandre, tu fais sur tes balcons.
Je crois que par-delà la matière, il y a aussi une adhésion à une culture. C'est-à-dire que la question de la masse, de l'inertie, c'est une question extrêmement importante qui a un rôle thermique extrêmement important. Et on comprend bien pourquoi Vous avez des arbres à Bordeaux, mais vous avez aussi de la pierre. Mais vous avez choisi la pierre. Il se trouve qu'il y a d'autres pays, ils ont choisi de construire des maisons de charpentiers. Mais je crois que ce n'est pas innocent. C'est lié aussi à votre climat. Et donc, l'idée de faire des bâtiments à forte inertie, ça me semble être extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ces loggias, qui sont en fait des doubles façades, qui sont des articulations entre intérieur et extérieur, c'est des endroits protecteurs qui créent comme ça une intimité dans la ville, qui vont permettre donc d'avoir une interface avec la ville. Donc elles ont un rôle climatique. Et tout ça, ça se fait, à mon avis, dans la masse, dans un matériau qui protège, un bâtiment protecteur. Bon, moi, je crois que pour Bordeaux, ça me semblait intéressant. Je ne dis pas qu'il se trouve qu'à Bordeaux, on fait d'autres bâtiments en métal. Mais dans la réflexion collective qu'on a eue, on a pensé que travailler sur cette massivité nous semblait être singulier et intéressant. On a voulu porter, donc, de façon assez résolue, assez volontaire.
Cette question de la masse, je pense qu'elle est centrale. Elle est centrale sur cette question de ce quartier-là, mais plus généralement sur Euro-Atlantique. Si on veut avoir des bâtiments qui résistent au temps, qui soient solides, qui ne se plient pas, qui ne se déforment pas à la moindre secousse, à la moindre heure, qui ne se détériorent pas, si on veut aussi obtenir une notion de patine dans le temps, la question de la matérialité, surtout sur les éléments bas du bâtiment, tout ce qui est en interface avec la ville, est au cœur de la problématique. Vous avez évoqué des logiques de l'azur et ainsi de suite, ça ne sera pas le cas. Typiquement, dans nos accords contractuels, avec aussi des logiques de pénalité derrière, hein, pour le promoteur s'il ne suit pas ça, ce n'est pas de la patine. C'est, si on fait du béton, il est teinté dans la masse. Si c'est un habillage de briques, ce n'est pas de la brique qui est à l'épaisseur de mon doigt, c'est de la brique qui est autoportante. C'est un certain nombre de choses comme ça qu'on a contractualisé. On ne sait pas encore tout de suite. Par contre, ce qu'on a contractualisé, c'est qu'on allait faire des prototypes de façades à échelle 1 sur des échelles d'un étage, de façon non pas à avoir seulement la question du matériau, la question de son épaisseur, la question de sa masse, mais aussi comment les différents matériaux vont fonctionner entre eux. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tant voir un prototype sur tout un étage que de voir comment l'étage du socle va se joindre avec l'étage du corps. Et ça, je pense que c'est notre philosophie commune au sein de l'équipe, mais c'est bien d'avoir une philosophie, c'est aussi bien de le contractualiser et de le pénaliser si ce n'est pas le cas. Et dans nos accords, c'est le cas.
Ouais, il faut, moi, j'aime la construction. J'aime les bâtiments bien construits. On essaie de faire des bâtiments bien construits. Il faut mettre une logique constructive au centre de l'architecture.
Excusez-moi, pour que chacun puisse entendre votre question, je vous passe le micro.
Petite remarque d'expérience, parce que je crois que j'ai réalisé quelques milliers de logements dans ma vie. J'aime beaucoup le traitement du soubassement, du socle. Je le trouve d'une grande élégance. Ce rythme, en effet, se rapproche beaucoup du rythme bordelais. Je vois qu'il a des variations qui sont vraiment rendent hommage à la ville. Par contre, d'expérience, quand on a des loggias comme ça, par pitié, il faut une certaine opacité pour les garde-corps. Parce que sans ça, on va se retrouver avec des toiles de plastique, des toiles de bâche, des trucs un habillage qui va être insupportable. Et malheureusement, j'ai coutume de dire que quand je termine un bâtiment, je fais les photos dans les 48 heures après la livraison, parce qu'après c'est foutu. Donc là, je crains là, ça. Même c'est dommage parce qu'il y a une grande élégance, je trouve, et cette transparence est utile. Donc je te suggère fortement d'essayer de continuer ta réflexion et de trouver une façon élégante de créer cette opacité.
Ouais, absolument. Alors l'idée là, c'est de travailler sur des fers plats plutôt que du baraudage, donc avoir une certaine intimité, parce que finalement la question, c'est la question de l'intimité. En même temps, on veut pas faire des logements complètement aseptisés. Moi, je pense que c'est bien, j'aime bien les balcons bien propres. Moi, je sais que ma mère, elle met plein de trucs sur ses balcons, je trouve ça très bien aussi. Voilà, je pense que il faut aussi être capable d'assumer la vie dans la ville. Donc il faut que ces balcons, ils soient vivants, et on vit pas tous de la même manière. En tout cas, ce que je ne veux pas, c'est que les balcons soient un dépotoir. Mais après, chacun doit pouvoir... Je pense que le logement doit être un espace de liberté. Donc on fait des choses assez réglées, mais après, j'espère que les gens auront plaisir à vivre dans le logement et à le vivre à leur façon.
La question de l'habitation des balcons, on y est évidemment très sensible. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire de repasser un an et demi, deux ans après sur une opération et finalement de ne plus pouvoir voir l'architecture du bâtiment parce qu'il a été colonisé un petit peu sauvagement. Mais c'est aussi la question, elle renvoie finalement à la question de la place dans les appartements, de la place pour le rangement. Sur cette opération, il a été prévu des caves sur cette opération, alors qu'ils ne sont pas des caves enterrées, puisqu'on ne peut pas construire en sous-sol à cause de la présence de l'eau. Donc à l'intérieur même du socle de cette opération, vous avez les parkings, mais vous avez aussi énormément d'espaces caves qui sont privatifs, qui permettront le rangement de la planche de ski, de la planche de surf, et qui finalement, au lieu de coloniser le balcon, faute de pouvoir le mettre dans l'appartement, trouvera une place à l'intérieur de la résidence et non pas sur le balcon. Et par ailleurs, il y a encore un travail qui est en cours, hein, que ce soit avec Alexandre Jonvel de Kobe et Emmanuel Combarel de CDM, sur la qualité des barodages, sur le rythme aussi des barodages, parce que finalement, en resserrant les barodages, vu de l'espace public, vous ne voyez pas ce qui se passe. Par contre, il est important que, vu du logement, vous ayez quand même une certaine transparence qui apporte de la lumière. Donc c'est un travail assez fin, en effet, mais on partage tout à fait cette problématique.
Merci. La prochaine conférence, excusez-moi. Donc d'ici 5 minutes, on va commencer une nouvelle conférence qui cette fois-ci va parler plus précisément des immeubles bois qui vont accompagner cette place et de toutes les modalités techniques que nous avons mis en place, toutes les innovations techniques que nous avons mis en place pour réaliser ces bâtiments. Donc on sera vraiment dans la continuité de cette présentation qui, elle, a montré le quartier, a montré les espaces publics. Dans la prochaine conférence, on va rentrer dans l'assemblage des poutres et des poteaux bois.
Et dans l'intervalle, donc, on vous a signalé la présence de la maquette 3D immersive qui vous permet de vous balader sur la place d'Armagnac. Et également pour les riverains, de vous dire que cette maquette sera disponible, ces lunettes 3D seront disponibles à la maison du projet de Ratlantique à partir de mercredi prochain, de mercredi à samedi de 14h à 18h. Et également la semaine suivante, du mercredi au samedi de 14h à 18h à la maison du projet. Donc rue Carl Vernet, station Carl Vernet sur la ligne C, notamment pour les riverains du quartier, pour permettre de vous balader sur cette nouvelle place d'Armagnac. Merci.
Oui. J'ai deux personnes qui seraient intéressées par le...
Oui, bétonné. J'ai
deux personnes voilà. Qui seraient vraiment intéressées.
Voilà.
Y habiter même.
Ben sinon, je vous invite à aller à la maison du projet donc, de Ratlantique, qui est la station Carl Vernet. Oui, on a tout un tas de supports.
D'accord, je vous remercie.
Je vous en prie.
Thank you.